Bac de Liana et Renaud, présenté par Muriel Malouf. Il est maintenant 12h30 en temps universel, 13h30 à Kinshasa, l'heure d'Afrique Midi. On retrouve Simon Bourtembour. Bonjour Simon.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en effet ensemble pour une demi-heure et une édition d'Afrique Midi encore largement consacrée à la situation dans l'Est de la RDC. Et pour commencer, le journal. Et à la une, le gouvernement congolais, une semaine après le début de l'attaque du M23 soutenu par le Rwanda, qui révèle un nouveau bilan du conflit. Il se porte à 773 morts. Des combats aussi au sud Kivu, où les autorités congolaises ont lancé une vaste opération de recrutement de volontaires. Reportage dans quelques instants. Nous entendrons aussi Olivier Kamitatou, porte-parole et directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi. Il est critique à l'égard du président Tshisekedi. Nous le verrons également, la demande de la RDC au PSG, à Arsenal et au Bayern Munich de lâcher son sponsor Visite Rwanda. Cet accord de parrainage est taché de sang, s'insurge la ministre congolaise des Affaires étrangères. À la une également, un coup de téléphone qui pourrait s'avérer décisif sur le dossier des Chagos. Les chefs des gouvernements britanniques et mauriciens se sont entendus. Nous le verrons, toute rétrocession semble soumise à un accord sur la base militaire de Diego Garcia. Et puis, vous rêvez peut-être secrètement de participer à Miss Côte d'Ivoire, alors restez bien à l'écoute. Le comité du concours de beauté annonce de nouvelles règles de sélection. Une semaine après l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à Goma, le gouvernement a tenu un point presse hier soir. Les combats ont fait 773 morts, 2880 blessés enregistrés dans les hôpitaux de Goma, un bilan supérieur aux estimations des Nations Unies. Dans la province voisine du sud Kivu, des combats ont lieu. Dans ce contexte, des milliers de jeunes hommes et même des femmes s'enrôlent aux côtés de l'armée congolaise. Un vaste mouvement de recrutement de volontaires a été lancé à Bukavu, dans plusieurs zones du sud Kivu. Le reportage de William Bassimike.
Tête rasée, visage détendu, Christophe, 25 ans, a décidé d'abandonner ses études universitaires pour défendre l'intégrité territoriale de son pays.
Je décide d'intégrer le Wazalendo pour aller battre les ennemis. Les études après, c'est la terre qui nous a laissé nos aïeux et on ne peut jamais la laisser tomber.
Ancien démobilisé des FRDC et des groupes armés, mais aussi des nouvelles recrues des 18 ans révolus, nombreux font part de leur indignation après avoir vu les images de la récente attaque de Goma par les M23 et les militaires rwandais. Mère de 8 enfants, cet ancien chef d'un quartier de Bukavu qui a requis l'anonymat veut épargner les Sud Kivu.
Je vais là pour venger le sang de mes compatriotes congolais qui sont en train de périr dans cette guerre nous imposée par le Rwanda. J'ai 63 ans, je vais me battre, je suis décidé. C'est l'esprit qui se bat, ce n'est pas la force physique.
Ancien leader d'un groupe armé, le député désormais ministre provincial de l'Intérieur, Albert Mourou-Lakash Afokamaïka, a décidé de faire de la sécurité sa priorité. Il lance un message à Kigali et veut rassurer les Congolais.
Que Kagame sache que même s'il décidait de se battre pendant 100 ans, il ne pourrait jamais gagner. Avez-vous déjà vu un chat se battre contre un léopard? N'ayez pas peur.
La période des formations des volontaires reste inconnue. Ces derniers disent vouloir être prêts à temps pour barrer la route au M23. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Dans un communiqué publié ce matin, le ministère des Affaires étrangères rwandais rejette pour sa part les accusations de la SADC. L'Organisation régionale des pays d'Afrique australe a dénoncé des attaques du groupe armé M23 et de l'armée rwandaise contre les FARDC et leurs alliés sur les populations civiles au nord Kivu. Faux, répond Kigali. Les FDR défendent les frontières du Rwanda. Elles n'attaquent pas les civils, soulignent les autorités rwandaises qui saluent cependant l'appel de la SADC à un sommet conjoint avec la communauté d'Afrique de l'Est. Dans ce contexte, alors que le président Tshisekedi a en début de semaine appelé à l'unité nationale. Ce matin, la responsabilité du chef de l'État et de son gouvernement a été mise en cause par une partie de l'opposition. L'opposant Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, dénonce la gestion de cette guerre et le manque de moyens. Dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, Olivier Kamitatou, porte-parole et directeur de cabinet de Moïse Katumbi, rend hommage aux soldats mal payés, dit-il, qui se battent dans l'est du pays. Il dénonce également ce qu'il appelle l'échec de Goma.
À maintes reprises, Moïse Katumbi a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de prendre soin de nos troupes. Il a dénoncé l'impunité entourant les détournements de fonds qui leur étaient destinés et critiqué l'opacité des marchés de dépenses liés à leur équipement. Il a également dénoncé la présence inacceptable de mercenaires et de groupes génocidaires aux côtés de nos forces armées. Toutes ces alertes ont été accueillies par le mépris et le dénigrement. Mais cet échec de Goma relève surtout d'une gouvernance calamiteuse des affaires de l'État marquée par l'immoralité, l'inversion des valeurs et la corruption. Les institutions de l'État, censées servir l'intérêt public, ont été perverties et détournées de leur rôle et fonction afin de servir des intérêts bassement personnels. Comment parler d'efforts financiers à nos concitoyens sans leur expliquer où sont passés les milliards de dollars américains dépensés dans la guerre alors que nos enfants ont été abandonnés dans les collines du Kivu sans tenue réglementaire et sans ration? Comment peut-on exiger de notre jeunesse qu'elle s'enrôle dans une armée sinistrée alors que depuis 2019 et une promesse fallacieuse d'amélioration, rien n'a été fait?
Olivier Kamitatou, porte-parole et directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi. Le conflit dans l'est de la RDC qui s'invite même sur les terrains de football. Les autorités de Kinshasa rappellent que trois des clubs parmi les plus connus du monde arborent sur certains de leurs maillots le logo promotionnel « Visite Rwanda ». Des accords de parrainage tachés de sang, s'insurge le ministre congolais des Affaires étrangères. Il exhorte Arsenal, le Bayern Munich et le PSG de rompre ses engagements avec Visite Rwanda. Alexandra Brangeon.
Trois clubs en partenariat avec le Rwanda et dont les maillots arborent la marque Visite Rwanda, sponsorisée par l'Office de tourisme rwandais. Arsenal, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Dans une lettre adressée au club en question, la ministre des Affaires étrangères congolaise interpelle les présidents de ces clubs et leur demande d'interroger la moralité de ces accords de sponsoring alors que le Rwanda mène une guerre dans l'est du Congo. La culpabilité du Rwanda dans ce conflit est devenue incontestable, écrit Thérèse Kayikwamba Wagner. Votre sponsor est directement responsable de cette misère, ajoute-t-elle. Il y a quelques jours, une pétition en ligne a été lancée en France par un supporter du PSG qui dénonce la responsabilité du Rwanda dans cette guerre à l'est du Congo et demande au président du club de ne pas renouveler son partenariat avec Kigali, qui doit prendre fin à l'issue de la saison en cours. Alexandra Banjon, Kinshasa, RFI.
Au Niger, un technicien chinois de la CNPC, société qui exploite le pétrole nigérien, et son chauffeur ont été enlevés hier par des hommes armés non identifiés. Le rapt a eu lieu non loin du site pétrolier d'Agadem, dans l'extrême nord-est, en pays Toubou. Les deux gardes nationaux qui escortaient l'équipe ont eux été tués. Cet enlèvement pourrait être un acte de représailles en réponse à la mort de quatre jeunes bergers Toubou tués par l'armée dans la même zone le 30 janvier dernier. Une rencontre inédite au Sénégal organisée par la police nationale. Journalistes et forces de l'ordre se sont réunis pour échanger sur la façon d'améliorer leur collaboration. Après une période de manifestation de l'opposition réprimée par la police et de fermeture de l'espace d'expression publique, cette réunion sur le thème droit à l'information et maintien de l'ordre voulait donc servir à rouvrir le dialogue. Le reportage de Léa-Lisa Westerhoff.
Pourquoi ce monsieur en tenue de police nous a poursuivis comme si on était des délinquants?
À la tribune, Absahan, une journaliste frappée par un élément de la police sénégalaise en février 2024, alors qu'elle couvrait une manifestation. Face à elle, dans l'assemblée, un peu plus de 200 policiers en uniforme et des journalistes, car de l'aveu même de la police, organisatrice de cette rencontre, il y a besoin de se parler. Commissaire Ndiaga Diop.
Les tensions passées entre la police et les journalistes nécessitent d'être désamorcées. Il y a également un besoin urgent de restaurer la confiance entre les deux corps de métier.
La confiance, car les manifestations entre 2021 et 2024 ont laissé des traces. Ibrahim Ali Safai, président de la Coordination nationale des associations de presse.
Beaucoup de journalistes ont été agressés, une centaine de journalistes brutalisés. leur matériel détruit et il n'y a pas eu de suite judiciaire et il n'y a pas eu en tout cas de suite administrative malheureusement.
En attendant que la justice suive son cours, pour Mathéou Mbaye, responsable des questions de protection pour l'ONG Article 19, la recette pour allier droit à l'information et maintien de l'ordre n'est pas si compliquée.
Plus de communication, il n'y a pas de canaux de communication clair qui fait que chacun pourra puisse faire son travail sur le terrain sans pour autant gêner l'autre.
Parmi les pistes d'amélioration suggérées à l'issue de cet échange, établir une zone sécurisée pour les journalistes, tout comme des formations à destination des policiers et des journalistes sur leurs contraintes respectives, enfin s'assurer que les plaintes déposées à l'encontre des policiers aboutissent. Léa Elisa Vasterov, Dakar, RFI.
Les États-Unis ont mené hier soir des frappes en Somalie. Comme l'annonçait Donald Trump, elles ont visé l'organisation État islamique qui se renforce dans le pays. Des figures clés du groupe ont été tuées selon les autorités de la région semi-autonome du Puntland qui mène depuis fin décembre une vaste offensive contre ces djihadistes. Le président somalien, quant à lui, fait part de sa profonde gratitude envers les États-Unis. À Djibouti, 8 membres d'un groupe rebelle tués dans une attaque de drones, annonce ce dimanche des autorités djiboutiennes qui précisent, je cite, qu'un nombre indéterminé de civils sont également morts dans la frappe perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi. Je vous le disais en titre, il s'agit d'un coup de téléphone entre Londres et Port-Louis qui pourrait être crucial quant à l'avenir des îles Chagos. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue mauricien se sont entretenus ce vendredi. Le Royaume-Uni assure être disposé à restituer l'archipel à Maurice, en insistant toutefois sur la nécessité d'un accord pour sécuriser la base militaire américaine de Diego Garcia. Pour sa part, le gouvernement mauricien ne s'est pas encore exprimé. À Port-Louis, correspondance d'Abdoulaye Rally.
Cette discussion marque le début d'un dialogue officiel au plus haut niveau entre les deux pays sur l'avenir des îles Chagos. Dans un communiqué, Keir Starmer a insisté sur la nécessité de sécuriser la base militaire américaine de Diego Garcia. Le Premier ministre britannique demande, je cite, « des garanties solides contre toute influence malveillante ». Cette position nouvelle de Londres est liée aux inquiétudes exprimées aux États-Unis au sujet d'une éventuelle influence chinoise dans la région. Pour l'instant, Port-Louis n'a pas communiqué sur cette conversation téléphonique entre Keir Starmer et son homologue mauricien Navin Ramgoolam. Cependant, la position de Maurice est claire. Le gouvernement ne demande pas le retrait des Américains de Diego Garcia, mais souhaite réviser les termes de l'accord initial de rétrocession de l'archipel. Pour Maurice, les conditions du bail de 99 ans avancé par le Royaume-Uni pour Diego Garcia posent un problème sur le plan juridique. De plus, Maurice estime que la location de ce territoire stratégique devrait se faire à sa juste valeur. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
En Côte d'Ivoire, les standards de beauté remis en question. Les réactions sont nombreuses alors que le comité Miss Côte d'Ivoire a annoncé des évolutions pour ses critères de sélection. Désormais, les candidates au concours devront laisser la part belle aux cheveux naturels. Les artifices sont donc désormais proscrits, Binta Diagne.
Principal changement pour cette 29e édition, les candidates n'ont pas le droit de porter de perruques, de tissage ou de mèches. Elles doivent avoir un teint naturel. Victor Yapobi, le président du comité Miss Côte d'Ivoire.
Toutes les candidates qui souhaitent se présenter au concours Miss Côte d'Ivoire viennent avec des cheveux naturels. Et elles peuvent venir natter, elles peuvent venir avec leurs cheveux courts. Si elles n'ont pas de cheveux, elles peuvent venir raser. Ce changement provient du fait que nous sommes souvent interpellés pour nous faire comprendre que les mèches, les perruques et les rajouts ne sont pas la culture ivoirienne, en particulier la culture africaine.
Dans les faits, les canons de beauté évoluent encore très lentement, relève le sociologue Nielbin Nikez-Lille.
C'est vrai que le mouvement couvre depuis longtemps. Ce qui n'est pas naturel, artificiel, est dénoncé. Mais quand on observe parallèlement la société, on voit que les tendances n'ont pas vraiment baissé. Si on regarde la dépigmentation, ce phénomène n'a pas vraiment baissé. Tout comme si on regarde aussi le port des perruques, cela n'a pas vraiment baissé.
Les organisateurs du concours espèrent attirer plus de candidates en allégeant d'autres critères comme la taille qui est revue à la baisse. Enfin, le concours est ouvert aux candidates malheureuses des précédentes éditions qui peuvent donc à nouveau postuler. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Avis aux candidates, la présélection pour le concours Miss Côte d'Ivoire aura lieu entre le 15 février et le 10 mai prochain. Un mot de sport et de football féminin et les supporters du TP Mazembe qui vont suivre de près les premiers pas de Merveille Kanjinga au PSG. L'attaquante s'est engagée cette semaine dans le club parisien. Talentueuse mais surtout porte-étendard des corbeaux d'âme depuis la création du club, Merveille Kanjinga s'en va après un parcours remarquable au pays et sur le continent où elle a remporté notamment la Ligue des Champions féminines. Au club, ce transfert à Paris ouvre bien des choses et couronne une série de succès de la famille Mazembe. Pascal Mangala.
Merveille Kanjinga réalise surtout un rêve d'enfance.
Je suis très contente de signer avec Paris Saint-Germain.
Espoir de tout un club, Kanjinga manquera au tout-puissant Mazembe et c'est avec un drôle de sentiment que Aimé, un supporter des Corbeaux, a reçu la nouvelle de son départ à Paris.
Kanjinga, c'est la meilleure des joueuses. Son départ de tout-puissant Mazembe, ça nous laisse un tout petit peu triste, mais elle doit faire sa vie. Et qu'elle fasse rayonner les noms de tout-puissant Mazembe en France, à Paris Saint-Germain.
Pour la coach marocaine de Mazembe, Lamia Boumedi, Kanjinga est déjà prête pour faire les merveilles du club parisien.
Elle est une joueuse très forte, puissante, très très rapide. Et en plus que ça, elle est très disciplinée et bosseuse.
Très mature tactiquement. Elle peut s'adapter à n'importe quel système de jeu.
Merveille Kanjinga à Paris, c'est en résumé un prestige pour le clan Mazembe et son président Moïse Katumbi. Premier club de RDC à vendre une joueuse dans un club européen de première division. L'histoire le retiendra pour très longtemps. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
RFI à Kinshasa, il est 13h45.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
À midi 46, maintenant en temps universel, la suite d'Afrique Midi et au programme votre chronique Afrique en marche. À la rencontre de femmes militantes qui lancent la semaine prochaine une nouvelle campagne contre l'excision, ces mutilations génitales dangereuses auxquelles 3 millions de jeunes femmes sont exposées chaque année dans le monde. À suivre également, chemin d'écriture consacré à Malcolm de Chazal, le poète, écrivain et peintre mauricien évoque en 27 fragments sa vie dans un ouvrage posthume qui vient de sortir. Et puis dans une dizaine de minutes, entretien avec Mina Binebine, designer et créatrice marocaine. La jeune femme est à la tête d'une marque de prêt-à-porter de luxe qui mêle glamour, savoir-faire traditionnel et élégance.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche sur des rails ce dimanche. On embarque dans un train que doit prendre à Paris dans une semaine un collectif de femmes militantes, direction donc Marseille, la ville du sud-est de la France où ces femmes africaines mènent depuis 2007 des campagnes contre l'excision et l'infibulation, des mutilations génitales qui, malgré les lois qui les interdisent, sont encore trop pratiquées en Afrique mais aussi en France. Frédéric Gara.
Vivant à Marseille, la comédienne ivoirienne Naki Si Savané est la présidente du collectif des femmes africaines contre l'excision. Elle est la cheville ouvrière de ce train qui, samedi prochain, conduira les militantes de cette cause de Paris à Marseille pour une grande campagne de sensibilisation. Dernière victoire en date pour cette association féminine qui a milité avec d'autres, le rejet cette année d'une loi visant à légaliser l'excision en Gambie.
C'est quelque chose qui m'avait révolté, c'est pour ça que j'ai lancé ce mouvement aujourd'hui, qui est le collectif des femmes africaines contre l'excision. Et nous avons mené cette bataille. Et pour une fois, les femmes africaines ont eu gain de cause. Donc nous aimerons quand même que cela soit su. Ben oui, parce qu'ils ont décidé de s'asseoir à cette loi. Donc c'est une première victoire pour nous, femmes africaines. Voilà. Donc on a envie que ça se sache. On a envie de dire que oui, les femmes africaines se sont levées un jour pour dire non à la légalisation et qu'elles ont été entendues. Et nous attendons d'autres victoires encore.
Parmi celles qui remportent des victoires et qui décrivent par leurs écrits la douleur ressentie d'une lame tranchant un clitoris, Aminata Traoré, excisée dans sa plus tendre enfance, cette écrivaine ivoirienne prendra part à cette campagne de sensibilisation entre Paris et Marseille le 8 février prochain.
Moi, je suis déjà une victime et j'ai pour habitude de dire que je ne suis pas fière d'être une victime de l'excision. Mais je suis fière d'avoir eu le courage de briser le mur du silence. Si ce témoignage-là peut permettre de sauver ne serait-ce qu'une fille, alors j'aurai déjà gagné ma bataille. C'est ça le plus important pour moi. Et donner aussi de la force à toutes ces survivantes, parce qu'elles sont partout. On les retrouve aussi en France, un peu partout. C'est de leur donner de la force pour dire que le couteau brûlant, ce couteau-là, c'est l'instrument qui sert à la pratique. Mais comment on peut transformer ce vécu, ce drame, en une force pour aller de l'avant? Mais vraiment, c'est de donner de la voix. C'est ça.
Donner de la voix et aussi se doter de lois contre l'excision. Depuis 1998, l'Assemblée de Côte d'Ivoire, par exemple, a légiféré pour interdire ce genre de pratique. Législation et éducation sont les deux principes sur lesquels Aminata Traoré compte pour faire disparaître l'excision.
Véritablement, l'action des activistes, des féministes sont portées. Donc, il faut toujours continuer. Et moi, par exemple, je travaille beaucoup en milieu éducatif à travers mon concept, le livre comme moyen de sensibilisation. Comme j'ai écrit une œuvre autobiographique, Le couteau brûlant, je me sers du livre comme moyen de sensibilisation en milieu scolaire. Parce que je me dis, les meilleurs relais au niveau de notre famille, ce sont les enfants, ce sont les élèves. Parce que eux-mêmes vont porter aussi leur voix à leurs parents pour dire que mais aujourd'hui, il faut bannir cette pratique parce qu'elle a plus de conséquences. Soyons optimistes.
Sensibiliser dans les écoles, mais aussi interpeller dans une société patriarcale ceux qui sont concernés tout autant que leurs femmes ou leurs filles, les hommes. Ghislain Koulibaly est le président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Il procède régulièrement à des rencontres avec les autorités religieuses ou les chefferies de village pour faire évoluer les mentalités.
Ce que nous constatons, c'est que lorsque les hommes sont sensibilisés, ils sont beaucoup plus utiles parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Lorsque les hommes deviennent des alliés ou des partenaires, alors ils se dressent contre toutes les pratiques de violence basées sur le genre, notamment les cas d'excision.
L'excision, une pratique qui a encore la vie dure en Afrique et ailleurs. Selon l'UNICEF, cette année, il y aura 3 millions de petites filles ou d'adolescentes à travers le monde qui passeront entre les mains d'une exciseuse.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche avec Frédéric Gara, RFI, 13h51 ici à Paris. Votre prochain journal dans 9 minutes, mais avant ça, un point sur les principaux titres de l'actualité internationale. Et à la une, Donald Trump lance une nouvelle guerre commerciale. Le président américain a signé le décret qui acte de nouveau de droits de douane pour deux de ses voisins, plus 25% pour les produits en provenance du Canada et du Mexique, et 10% supplémentaires pour les marchandises chinoises. À la une également, Kiev et Moscou qui s'accusent mutuellement d'une attaque dans la région de Koursk. Et puis, mobilisation nationale en Allemagne contre l'extrême droite. Point d'orgue de mobilisation pour protester contre le rapprochement amorcé cette semaine entre la droite et l'extrême droite à 3 semaines des élections législatives. Sur les chemins d'écriture ce dimanche, rencontre avec Malcolm de Chazal, né en 1902 et disparu en 1981. Il est l'auteur d'une œuvre prolifique, inclassable, à mi-chemin entre poésie, philosophie et économie politique. Poète, écrivain et peintre, Chazal est une figure légendaire des lettres mauriciennes. À l'occasion de la sortie de Demi-Confidence, ouvrage posthume et autobiographique où Chazal évoque 27 chapitres de sa vie, Tirthankar Chanda a rencontré la romancière Ananda Devi qui voue une admiration sans borne à Malcolm de Chazal.
Bonjour Ananda Devi, vous venez de lire Demi-Confidence, le nouvel opus de Malcolm de Chazal, un auteur qui n'a aucun secret pour vous. Que raconte ce livre ?
C'est comme une espèce de confession d'outre-tombe où Malcolm de Chazal revient sur son parcours, sur son rapport au monde, aux êtres, comment il s'est senti incompris, rejeté par tout le monde et en même temps capable de rester en contact avec ce qu'il appelle la magie innée du poète. Ça m'a fait penser à ma première lecture de Sens plastique où j'étais absolument époustouflée et aussi troublée par cette manière d'écrire particulière à lui. Je dirais écriture philosophique et poétique, mais qui met au défi le lecteur de comprendre à sa manière ce qu'il est en train de dire.
Dans les années 1950-1960, Malcolm de Chazal était très connu. Découverte par les surréalistes, son œuvre a été publiée aux éditions Gallimard. Ce n'est pas rien. Comment s'explique alors qu'elle soit aujourd'hui tombée dans l'oubli ?
Je crois parce que lui était une sorte de génie incompris, même s'il a été découvert par les surréalistes et publié chez Gallimard. Mais après, on l'a vite oublié. J'ai l'impression que cette disparition est un peu liée au fait qu'il appartenait à une petite île très éloignée du centre littéraire français. Et en même temps, il avait besoin de l'île pour écrire. C'est ce qu'il dit dans ce livre. Il avait besoin de la recréer, avoir cette géographie mythique pour ancrer son écriture.
Son œuvre est réputée inclassable, difficile à déchiffrer.
Je crois que ce qui est très particulier, c'est cette construction d'un mythe qui commence avec Sens Plastique, où il raconte qu'il se promenait dans le jardin botanique de Coeurpipe, qui est la ville où j'ai grandi, et je connais très bien le jardin botanique, et il dit qu'il a eu une sorte d'épiphanie où il a vu que la fleur le regardait, et ça déclenche toute une réflexion sur notre rapport au vivant. Après, avec Petrus Mok, il va amplifier cette mythologie de l'île. Il croyait aussi dans l'existence de la Lémurie, c'est-à-dire un grand continent englouti, un peu comme l'Atlantide. Nos îles n'étaient pas que des îles, mais des continents où il y avait peut-être eu une race d'êtres humains plus grands que ce que nous sommes devenus. Donc, il voulait créer une écriture qui englobait un tout, qui englobait le monde, qui englobait le rapport de l'homme au monde, à lui-même, à la littérature. Et il avait une sorte d'impulsion à la fois mystique et poétique.
J'ai enfanté l'île Maurice, écrit Chazal. C'est quelque chose que vous aussi, vous auriez pu écrire, non, Ananda Devi?
Le fait que cette île m'a tellement portée à travers mon écriture et que je l'ai portée en moi et que finalement, c'est vrai que ça devient une géographie spirituelle. Je trouve ça très beau comme message. En fait, on réinvente nos propres pays à travers nos livres. C'est le message de Malcolm de Chazal.
La romancière Ananda Devi au micro RFI de Tirthankar Chanda. Nous prenons à présent la direction du Maroc avec 100% création. Marina Afonso est allée à la rencontre de Mina Binbin, designer audacieuse qui a créé sa marque éponyme en 2018. Du prêt-à-porter, de luxe ou comment mêler le glamour, le savoir-faire traditionnel et l'élégance.
J'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Non, je me suis jamais sentie aussi forte. Je me sens femme, je me sens capable de surmonter tout ce que j'ai à surmonter. » Et c'est ça qui me rend le plus fière, je pense, dans mon travail.
Mina Binbin, designer, créatrice de mode et fondatrice de la marque éponyme.
Le but, c'est plus tard d'enlever Mina, une marque qui s'appelle Binbin. C'est classe quand même, je trouve.
Mina Binbin est née à New York. Elle a vécu et grandi à Marrakech. Fille d'un célèbre peintre et romancier, elle a toujours été entourée d'art et de créativité, ce qui a nourri son rêve d'enfant de devenir styliste. Après son baccalauréat, elle poursuit donc des études de mode à Los Angeles. À la fin de son cursus, elle exerce, d'abord comme stagiaire, puis assistante designer et enfin directrice artistique pour une marque de lingerie haute couture. Ce qui lui permet de développer ainsi ses compétences dans l'industrie de la mode. Elle décide de compléter sa formation par un master en business administratif avant de lancer sa marque éponyme en 2018, suivie de l'ouverture d'un showroom à Los Angeles. Mais la pandémie du Covid a été un moment difficile pour Mina Binbin. De retour au Maroc, elle ouvre un atelier de couture.
J'aime bien le confortable, le oversize, les corsets, c'est ma passion. J'adore ça depuis Jean-Paul Gaultier, de toute façon depuis que je suis gamine, j'adore ça. Donc on va retrouver à peu près les mêmes modèles, les mêmes silhouettes, mais pas forcément les mêmes tissus, les mêmes finitions. J'essaie quand même toujours de garder la petite touche marocaine. Via les couleurs, via le tissu marocain et via les broderies.
Son désir de redéfinir les codes de la mode marocaine la pousse à concevoir des collections confortables, adaptées au quotidien et qui valorisent la tradition textile marocaine. Elle privilégie également un environnement de travail majoritairement féminin, valorisant l'artisanat local.
On a un patrimoine marocain qui est extraordinaire. J'ai pas envie que ça se perde. Il y a un homme dans mon équipe. Il y en a un seul. Donc j'ai un groupe d'artisanes. Elles ont appris de leur mère, qui ont appris de leur mère, qui ont appris de leur mère, qui ont appris de leur mère. Après, moi, je les forme à ma façon. Certaines coutures que j'ai appris à L.A. Donc je leur fais une formation de 2 semaines. J'aime travailler avec les Marocains et j'aime travailler chez moi au Maroc. Il y a personne d'autre qui pourrait faire les broderies des Marocains que des Marocains. Donc voilà.
Retrouvez l'univers de Mina Binbin sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Afrique Midi. Merci à vous d'avoir été à notre écoute. Benoît Raymond était à la réalisation, rédaction en chef Karine Franck avec Pierre Vallée. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Dans un peu plus d'une minute maintenant, un nouveau journal consacré à l'actualité internationale.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
glaucome et cataracte, deux maladies oculaires plus fréquentes avec l'âge.
Mardi,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Depuis plus de 25 ans, ce MC du genre discret hante les coulisses du rap français. JP Manova est dans BPM La Rencontre.
On chantait Paris et magique, frérot. J'ai toujours su qu'elle n'était pas. Ouais, je suis toujours dans la zig, frérot. Mais c'est dur de suivre mes pas.
Bonne pulsation du monde. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.